Alors, si vous voulez bien tourner dans l'évangile de Jean. Est-ce que tout le monde a reçu un petit pamphlet pour suivre le message? Sinon, levez la main. Alain et Louise ou Louise ont de quoi pour vous. On va faire quelque chose d'un peu différent ce matin. Et à travers mes lectures, le pasteur a toujours, durant le culte, un temps de prière. Et c'est un temps de prière que je veux faire avec vous, c'est-à-dire vous allez demeurer en silence, vous allez vous courber. Et on appelle cela la prière pastorale. Je vais commencer par lire les cinq versets du message de ce matin. Alors, si vous voulez tourner dans Jean 1, on va lire les versets 1 à 5. Et ensuite, je vais prier. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Prions Dieu. Seigneur, on vient devant toi, toi notre grand Dieu, notre roi éternel. Et nous sommes reconnaissants du fait que nous t'appartenons, mais aussi on doit reconnaître que nous sommes des pécheurs, non seulement en ce que nous avons péché, mais en ce que nous commettons à tous les jours les péchés. On ne veut pas être déçu à ce sujet, parce que ta parole est claire, et si on nie avoir péché, nous faisons de toi un menteur. Notre péché est toujours devant nous et pour faire écho à la prière du roi David, alors on veut d'abord confesser nos péchés, sachant que tu es fidèle à nous pardonner et que tu apportes ta justice pour nous purifier de l'accumulation de nos fautes commises à tous les jours. Dans un même souffle, nous te remercions, notre Papa du ciel, pour les gloires de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, en particulier la communion dont nous jouissons avec toi et ton Fils Jésus. Nos langues ne peuvent pas trouver suffisamment de louanges pour te bénir. Ce que tu as fait pour nous dépasse toutes les distinctions humaines. Nos pauvres esprits ne peuvent pas sonder l'immensité de ta grâce, mais nous savons que tu es beaucoup plus digne de ce que le langage humain pourrait jamais exprimer. Cela ne peut pas, par contre, nous empêcher d'essayer, et nous avons confiance que tu reçois les simples remerciements de tes enfants. Merci, Seigneur, pour les miséricordes quotidiennes. Tu nous combles, c'est-à-dire avec le confort et les bénédictions de la vie, la joie de la famille et la joie des amis, l'amour de l'Église et d'innombrables autres données comblent nos vies à chaque jour. Tu nous donnes richement et nous devons apprécier, Seigneur, ce que tu fais pour nous. On te remercie spécialement pour les saintes Écritures, la parole de vie. Comment pourrions-nous vivre sans ta vérité? Elle nous conduit à la repentance quand nous péchons. Elle nous donne des promesses pour la vie et elle encourage notre cœur à aimer et à poursuivre la sainteté. Père, nous sommes dans l'attente pour aller au ciel, où nous serons enfin parfaits. Mais pour l'instant, nous vivons dans un monde où nous sommes encore assaillis par le péché, l'échec et la faiblesse, et nous confessons que nous trébuchons et nous tombons à tous les jours. Nous avons désespérément besoin de ton pardon, Papa, un pardon constant. On a besoin de ta grâce. Donne-nous une fin plus profonde pour la justice, pour ta justice. Alors, Père, on te demande, ô Dieu, que ta parole domine notre pensée, purifie nos consciences et contrôle notre vie afin que les gloires du Christ et la puissance transformatrice de l'Évangile soient clairement exposées en nous. Merci, Père, pour ce pardon continuel de tous nos péchés. Merci pour la grâce qui est en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions pour le grand amour avec lequel tu nous as attirés à toi-même. Une telle faveur divine est quelque chose que nous ne pourrions jamais mériter. Tu l'as simplement donné parce que nous l'avons demandé dans la foi que tu as toi-même gracieusement supplié pour nous. Nous nous accrochons au Christ, au nom duquel nous prions en demandant, en terminant, qu'à travers lui, nous pourrions apporter honneur et gloire à ton précieux nom. Amen. Jésus-Christ est-il Dieu? Je vous ai posé la question tantôt. Puis j'en poserai un autre. Qui est Jésus pour toi? Prends bien soin de réfléchir avant de répondre. Parce que ta réponse pourrait être la plus importante que tu aies à donner. Ce matin, nous avons lu Jean 1, versets 1 à 5, c'est notre passage clé. Et dans le pamphlet que vous avez tous reçu, vous avez des écritures justificatives, c'est-à-dire les paroles dans la parole qui confirment que Jésus, qui est Jésus. Et dans ce message de l'Évangile de Jean, ce qu'on veut voir exactement, c'est vraiment qui est ce personnage qui a marché sur la terre il y a plus de 2000 ans. Qui est Jésus? C'est lui que la parole dit qu'il est le Fils de Dieu. Et ce que nous croyons au sujet du Fils du charpentier de Nazareth ne détermine pas seulement notre vie ici-bas et maintenant, mais surtout dans l'éternité. Donc, on va découvrir ensemble comment Jésus est l'image parfaite de Dieu, le Père. Et Seigneur, puisses-tu nous ouvrir l'esprit afin qu'on puisse recevoir tout cet enseignement ce matin qui provient de ta parole et plusieurs versets, surtout dans l'Évangile de Jean, et que notre cœur puisse être prêt à recevoir cet enseignement-là. Que penses-tu de Jésus? C'est quoi ton opinion? C'est tout simplement un homme. Il y en a bien qui n'en font même pas de cas. C'est-tu un des nombreux prophètes ou enseignants qui a parcouru le monde dans ce temps-là? D'ailleurs, les musulmans pensent que c'est un prophète. Peut-être quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens de nos jours peuvent être intéressés par les enseignements de Jésus. Justement, on voit ensemble à l'étude biblique du mardi soir les béatitudes et puis le sermon sur la montagne. Et on peut lire à la fin de Matthieu, chapitre 7, que les gens ont été frappés par l'enseignement de Jésus. T'es-tu un de ceux-là? Es-tu surpris par ces guérisons? Est-ce que Dieu, le Dieu qu'on nomme, est plus important que Jésus? On peut prétendre croire en Dieu en considérant Jésus comme simplement non pertinent. Il n'y a rien à voir. Il y a un Dieu à quelque part, mais Jésus, c'est plus difficile à accepter. Mais ce qui est important, c'est ce que dit la Bible. Ce que dit la parole de Dieu sur le sujet. Ce qui est important, c'est pas ce que moi je vais dire, ou bien non, ce que je vais dire qui est appuyé par un verset ou des versets bibliques. L'Évangile de Jean nous donne une image de Jésus qui est un peu différente de celle des autres évangiles. Et la réponse de Jean à l'identité, à qui est Jésus, c'est une affirmation selon laquelle Jésus est Dieu. Pas n'importe qui. Il est Dieu avec un grand D. Et toute la preuve qui est nécessaire pour prouver ce que Jean dit, cette affirmation-là, bien, c'est dans la parole de Dieu. Ça a été retenu dans la parole de Dieu. Et en particulier dans le livre de Jean, comme j'ai dit tantôt. Et selon 1 Jean 1 à 5, qu'on a lu, juste pour faire un petit résumé, Jésus, c'est le Dieu éternel, le Créateur de tout. C'est la source de vie qui était avec Dieu depuis le commencement. Mais qu'est-ce qu'a dit Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit de lui-même, Jésus? Ceux qui étaient à l'étude biblique ont participé à l'étude qu'on faisait des « Je suis ». Hein? D'accord? Et il y a plusieurs versets qui ont été mentionnés, et beaucoup dans l'Évangile de Jean. Et notre frère Serge nous a enseigné là-dessus. Prenez par exemple Jean 10, 14. Jésus dit, « Moi, je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et elles me connaissent. » Jean 10, 14. « Je suis le bon berger. » Un petit peu avant, verset 7 et verset 9, Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Et au verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. » Ça dit beaucoup de choses, ce petit verset-là. La porte, là, quand je veux rentrer chez nous, là, je ne rentre pas par la porte du voisin. Je rentre par la porte d'entrée qui m'a été assignée de mon appartement, de ma maison. La seule porte pour aller vers le Seigneur, c'est Jésus. Si tu veux être sauvé, passe pas par autre chose que par Jésus. Puis tu ne manqueras pas de rien. Tu vas pouvoir entrer et sortir dans le sens que il y a du pâturage, il y a de quoi pour toi. Au verset 30 de Jean 10, « Moi et le Père, nous sommes un. » Jean 12, 45, « Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Qui l'a envoyé? Dieu. 1 Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Encore là, il est la lumière du monde. Au verset 6 du chapitre 14, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Je ne comprends pas qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Il y en a qui pensent qu'on va au ciel par la religion, par les œuvres, par toutes sortes de choses. Oh, moi, je fais le bien. Je me rappelle d'un de mes anciens patrons, un musulman, qui lui, quand il tombait en mode repentance, qu'il était gentil. Mais il n'était pas drôle quand il n'était plus dans le mode de repentance. Parce que pour lui, se mériter ce que Allah promet, je devrais faire un signe vers en bas, c'était d'être bon. Marche pas de même. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a personne qui va aller au ciel s'il ne passe pas par Jésus. Maintenant, Jésus a commis des actions.
quand il a vécu 3 ans sur la terre, il a fait des choses. Et est-ce que ces choses-là étaient cohérentes avec ce que Dieu demandait de lui? Parce que sans ça, là, il y aurait une grosse différence. Et on pourrait dire, bien, Jésus, c'est pas Dieu. Dieu est comme ça, mais Jésus est comme ça. Regardez dans Jean 8, verset 29, qui dit ceci. « Celui qui m'a envoyé est avec moi. » Wow! « Il ne sera pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jésus faisait tout ce qui était agréable au Père. Donc, c'était cohérent avec la volonté du Père. Au verset 10 de Jean 10, on peut lire, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Jésus est venu pour qu'on ait la vie. Puis qu'on soit dans l'abondance. Puis des fois, ça ne paraît pas. Ça ne paraît pas pantoute. Juste pour changer de avec Jean, Matthieu 9, 6, on peut lire, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Donc, Jésus a fait ce que le Père lui a demandé de faire, c'est-à-dire de venir sur la terre pour qu'on puisse avoir accès au pardon de nos péchés. Et oui, il a fait du bien, il a guéri des gens qui étaient malades. Si on retourne dans Jean, au chapitre 10, versets 17 et 18, Jésus dit, « Le Père m'aime. » Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Il n'y a personne qui a tué Jésus. Il a donné sa vie. Il faut tous se rappeler de ça. Oui, il y a des gens qui l'ont torturé, mais il n'y a rien de cela qui l'a tué. Jésus a donné sa vie. Il dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Il l'a donné lui-même. Il dit un peu plus loin, au verset 18, « J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Encore là, Jésus était cohérent avec ce que le Père lui a demandé. Et Jean 6, 38 dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » La volonté du Père. Maintenant, on peut se demander, oui, Jésus a été cohérent avec ce que le Père lui a demandé, mais quelle était la relation de Jésus avec son Père? Et dès le commencement, dans Genèse 1, 26, on peut lire ceci, « Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, c'est-à-dire, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Qui est-ce qui parle, là? C'est la Trinité. C'est la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui parlent ici de la création. Jean 10, verset 30, il dit, « Moi et le Père sommes un, on l'a vu tantôt. » Ils sont unis, c'est ça qui caractérise leur relation. Ils sont un. Jean 8, 19, ils lui dirent donc, « Où est ton Père? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » On voulait voir Dieu. Jésus dit, « Regardez-moi. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Ils n'ont jamais voulu. Versets 16 et 17 du chapitre 14 de Jean, encore une fois, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Ça, c'est le Saint-Esprit, « afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Seulement que les enfants de Dieu qui peuvent le recevoir, parce qu'ils ne le voient point et ne le connaissent point. Mais vous, parle à ses disciples, vous le connaissez, car il demeure avec vous
et il sera en vous. Tous ceux qui sont croyants ici ce matin, l'Esprit Saint vit en vous. Il ne viendra pas plus tard. Il ne viendra pas quand tu vas commencer à parler en langue, quand tu vas commencer à faire des miracles. Il vient immédiatement lorsque tu reçois Christ dans ta vie comme sauveur et Seigneur. Maintenant, dans la parole de Dieu, on a souvent la mention des trois membres de la Trinité. Jean 1, 1, exemple, « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu, mais la parole, Dieu, étaient ensemble. Jean 1, 3, « Toutes ces choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » C'est-à-dire que Jean ici témoigne que Jésus était Dieu dans la chair humaine. Il y en a qui pensent que parce que Jésus a enduré les souffrances, parce qu'il faisait des miracles, c'est parce qu'il était seulement Dieu. Puis quand il y a eu des souffrances, bien, il pouvait les endurer plus que quelqu'un d'autre. Non. En même temps, Jésus était Dieu, le Fils, et un homme. Tout ce qu'il a passé au travers, il l'a senti comme toi et moi, on le sent aujourd'hui. Jean a identifié Jésus comme étant le Créateur, qui est également soutenu par Genèse 1, 26, qu'on a lu tantôt. Regardez bien ce que Colossiens 1, ça c'est Paul, versets 15 et 17 dit de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Bon, bien, le Dieu invisible, on ne voit pas. Christ est l'image. Le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. J'ai juste quatre autres versets à vous dire. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 14, 11, Jean 14, 11, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jean 5, verset 36, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et finalement, Jean 8, 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Donc, tous ces versets-là nous démontrent clairement que le Père et le Fils sont un, qu'ils travaillent ensemble, que le Fils a obéi au Père lorsqu'il est venu ici. Il a quitté son trône de gloire pour venir habiter avec nous, des pécheurs. On avait besoin d'une bouée de sauvetage, on avait besoin d'un salut. Et le seul moyen d'être sauvé, c'est par Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, pourquoi la divinité de Christ est-elle si importante? Vous savez, il y a plusieurs dénominations qui autrefois étaient chrétiennes, qui commencent à se questionner sur la divinité de Jésus. C'est presque épeurant de voir comment l'évolution de certaines religions s'en va dans le méchant sens. Parce que la divinité de Christ est attaquée de toutes parts. Dans l'esprit de beaucoup de gens, Dieu est une entité qui est lointaine, qui est étrangère, qui est indescriptible et qui existe à quelque part. On nomme souvent le nom de Dieu. Vous regardez des fois des émissions, « My God »,« Oh my God »,« Oh my God ». ne sais pas si elle connaît Dieu. Ces gens-là prétendent croire en Dieu. Mais tout ce qu'ils font, c'est qu'ils ne portent même pas attention à lui. Ils ne veulent même pas lui être soumis. Aïe, ça, c'est un mot à bannir, la soumission. Et leur Dieu, avec un petit dé, est censé les aider quand ils en ont besoin. Mais ce Dieu-là ne les fait jamais se faire sentir comme étant condamnés. Moi, s'il y a une chose qui m'a surpris lorsque on m'a apporté l'Évangile, c'est qu'à un moment donné, j'ai réalisé, hey, je suis condamné. Je suis un bon garde, mais je m'en vais en enfer, c'est-à-dire pas en allant en enfer, mais je m'en vais en enfer. Ce Dieu-là, ce petit Dieu-là, il fait jamais qu'ils sont coupables de rien. C'est pas de ma faute. Ah, ben, il explique à Dieu pourquoi que j'ai fait ça. Il va comprendre. En outre, il y a beaucoup de gens qui disent croire en Dieu, mais ils ne croient pas en Jésus. Et cela est vrai pour plusieurs différentes religions dans le monde, comme j'ai dit tantôt. Mais c'est impossible de croire en un seul vrai Dieu et d'exclure Jésus-Christ. C'est impossible parce que Jésus, c'est un des membres de la Trinité. Et Jésus a affirmé que lui et le Père étaient un. Pas un gros, puis un petit un. Un. Et une autre raison pour laquelle les gens ne veulent pas reconnaître la divinité de Christ, c'est parce que cela les rend... Ça fait que un Dieu personnel... Ils ne sont pas à l'aise avec ça. Ça les rend inconfortables. Et ça fait d'eux des gens responsables. Et aujourd'hui, on ne veut pas ça. On ne veut pas être responsable de rien. C'est bien plus facile de tasser les choses vers les autres. Moi, je ne suis pas de mort. Non, je ne veux pas être responsable. Tu fais de nommer le nom responsable. Veux-tu être responsable d'une telle affaire? Non. Ces gens-là préfèrent un petit Dieu qui sera d'accord avec eux et qui les aide à obtenir ce qu'ils veulent dans la vie. Pas le Dieu qui se mêle de leurs affaires et qui les tient responsables. Non. C'est pas ce genre de Dieu-là. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vue cette semaine sur YouTube. Ça s'est passé pour le vrai à Grace to You, à Californie, où que John MacArthur prêche. Et ce matin-là, il arrive d'une conférence et il s'apprête à prêcher. Et c'était dans le temps où John MacArthur a sorti son livre qui s'appelle Strange Fire. Et ça parle des mouvements charismatiques pentecôtistes qui exagèrent vraiment dans leur célébration. C'est toujours des miracles, des choses extraordinaires. Et là, il y a quelqu'un qui est parti de l'Irlande. Et il s'est infiltré dans l'église de MacArthur pour quelques semaines. Et ce matin-là, il se lève et il marche directement sur le podium où John MacArthur est. Il commence à l'accuser de faux prophète, de personnage à niveau en plein culte, et de dire que son enseignement est faux, puis lui c'est un prophète, il a reçu la parole de Dieu, puis il est là pour dénoncer John MacArthur comme quoi que c'est pas vrai ce que John prêche. Évidemment, les gens qui sont pour la sécurité se sont avancés doucement et on l'a conduit à l'extérieur. Doucement. Et un de ces gardes de sécurité-là a dit à cet homme-là, il dit, « Quand Dieu te parle, est-ce qu'il te parle en irlandais? » Et le gars, il a dit, « Oui. » Quoi ça veut dire, ça?
Dieu parle pas en irlandais. Il est capable, mais Dieu parle pas en irlandais. Si ça aurait été Dieu, ça aurait été autrement. Et c'est lui qui s'est créé son propre Dieu, qui se parle, qui se convainc, comme quoi qu'il est un grand prophète, puis qu'il est là pour détruire ce que les vrais enseignent. Jésus, c'est lui le vrai Dieu. Le genre de Dieu, comme je vous ai mentionné tantôt, ce n'est pas Dieu. Maintenant, pourquoi Jésus a-t-il dit qu'il est venu dans le monde? Il est venu afin que nous puissions avoir la vie, hein, Jean 10:10, puis l'avoir en abondance. Hein, le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ça qui t'est réservé si tu veux prendre le temps de réfléchir à la question que je t'ai posée. Si tu ne connais pas, si tu n'as pas cette relation personnelle-là avec Dieu, là, il faut que tu te poses cette question. C'est qui Jésus pour moi? Mais c'est celui qui peut te donner la vie en abondance. Le Père a envoyé Jésus sur la terre pour marcher dans la chair humaine parce que Il est venu faire face, Jésus est venu faire face, hein, Jean 4, à la tentation, puis il n'a pas péché. Il est venu accomplir des miracles qui témoignent de sa divinité. Jésus n'a pas guéri un aveugle, que ça faisait 2 mois qu'il était aveugle. Jésus a guéri des aveugles de naissance. Et ça, ça ne s'est jamais fait. Guérir un aveugle de naissance. Le fait qu'il recouvre la vue, ça ne s'est jamais, 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 jamais fait. Des gens peut-être qui ont perdu la vue temporairement, qui l'ont... Ça se peut. Mais jamais un aveugle né. Finalement, Jésus est mort sur la croix. Il a porté le poids, la punition de nos péchés. Pourquoi? Parce que... afin que tous ceux qui croient, qui croient en lui, puissent être pardonnés et qu'ils puissent recevoir la vie éternelle. Jean 3:16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé toi, 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 qu'il a donné son Fils unique, afin que toi, 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 qui crois en lui, ne périsse point, mais que toi, 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 tu aies la vie éternelle. » Éternel. C'est Jésus qui a le seul pouvoir de nous sauver de la condamnation éternelle. Pensons-y juste une petite seconde. Qu'est-ce qui se passerait si Jésus ne serait pas Dieu? Je ne dirai pas le mot, mais on est dans la... Si Jésus n'est pas Dieu, c'est un parfait menteur. C'est pas possible de lui faire confiance. Sa mort a eu aucun effet et on est toujours dans nos péchés, imaginez-vous. L'histoire de la résurrection est fausse. On n'a aucun espoir de la vie après la mort, la vie éternelle, ou d'une résurrection future. Le christianisme, c'est juste une autre fausse religion. Alors, qu'est-ce qu'on est? On est désespéré et impuissant dans cette vie et nous serons confrontés au jugement et à la punition éternelle. C'est ça. Si Jésus n'est pas Dieu, c'est ça. On n'a aucun espoir. Aucune espérance. Je conclue en disant ceci. Jésus est Dieu. Amen. Amen. Jésus est Dieu. Et tout ce qu'il a fait a entraîné le pardon de nos péchés, le don de la vie éternelle. Puis là, il est en train de nous préparer toute une maison au ciel. Cette semaine, comme à toutes les semaines, je vous donne quelques questions qui sont dans vos bulletins à méditer.
de quoi manger votre nourriture spirituelle. Ta perception de Dieu et de Jésus, est-ce qu'elle correspond aux descriptions bibliques de ce qu'on a lu ce matin dans la parole de Dieu? C'est-tu ce Jésus-là que tu connais ou tu as peut-être fait un Dieu selon ton imagination, selon tes goûts? Si c'est ça, il est temps que tu reviennes à ce que la parole de Dieu dit. Puis si tu as besoin d'aide, bien, on est là, hein? Moi, les anciens, d'autres frères et sœurs qui sont ici, qui peuvent t'aider à comprendre les Écritures tout en demandant à Dieu de te les faire comprendre. Si tu ne connais pas Jésus ce matin, qu'est-ce que tu vas faire avec la vérité, les vérités qu'on a vues sur lui-même? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Hein, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis un avec le Père. Qu'est-ce qui est en jeu si tu refuses? Je vous l'ai dit, j'en ai fait d'évangélisation, puis quand je posais des questions à des personnes âgées dans des petits villages sous une dénomination quelconque, et que je disais « Où tu vas passer l'éternité? Où vous allez passer l'éternité? » Puis qu'on me disait « 6 pieds sous terre dans une boîte. » C'est ça qui est en jeu si tu refuses, c'est-à-dire que tu vas aller plus loin que la boîte, tu vas aller en enfer. Faut le dire, ça. Hein? On n'est pas une église qui a peur de mentionner le mot péché, enfer. Non. Ça existe. Si tu ne crois pas en Dieu ce matin, il faut que tu mettes les choses en règle. Demande-lui. Va chercher de l'aide. Il y a des gens ici qui vont t'aider. Puis si tu es son enfant, c'est quoi ton trésor si tu crois en lui? Jésus est Dieu. Papa éternel, merci. Merci pour toutes ces paroles dans ton évangile qui nous réconfortent, qui nous rassurent, Seigneur, de la divinité de Christ. Qu'on puisse être des témoins fidèles, Seigneur, de ne pas avoir honte, de ne pas avoir à rougir de Jésus, de proclamer haut et fort que Christ est Dieu, c'est lui le sauveur du monde. Seigneur, fortifie nos cœurs, fortifie nos âmes. Donne-nous cette semaine le courage de pouvoir parler de toi. Tu nous donnes ces paroles-là, non pas pour les garder dans nos Bibles fermées qui passent leur temps sur une tablette dans la semaine, non. Ces paroles-là sont là pour qu'elles soient dans nos cœurs et qu'on puisse les répéter à un monde sans espoir. Sois béni, ô Dieu. Que ton nom soit glorifié. Purifie ton Église. Donne-nous, Seigneur, d'être la lumière, le sel de la terre. Et tout cela, par Jésus, on te prie. Amen.